Ben, l'Institut de la statistique du Québec a présenté ce matin son rapport sur la santé des jeunes. Écoutez, là, ils ont sondé 62 000 jeunes du secondaire. Et ce qu'ils ont découvert, c'est franchement assez inquiétant. Moi, j'ai vu ces chiffres-là, puis je me suis dit, il faut commencer l'émission avec ça. Philippe Bonneville a couvert la conférence de presse, c'est ça? Tu as lu le rapport?
Absolument. Et on peut dire, Bernard, que c'est un portrait de la santé des jeunes Québécois qui est très peu reluisant, qui est même préoccupant, surtout au niveau de la santé mentale. Parce que, vraiment, là, quand on regarde les cas de troubles anxieux, les cas de dépression, les troubles alimentaires, c'est en forte hausse par rapport à une étude similaire qui avait été réalisée il y a 6 ans. Donc, on a quelque chose pour comparer les statistiques qui nous arrivent aujourd'hui, Bernard. Et on le voit, là, c'est plutôt troublant, tout ça. Et surtout, du côté des troubles TDAH, pratiquement un jeune sur 4, parce que vous avez dit 20 % mais le chiffre là, officiel, c'est 23 % des jeunes secondaires qui ont été sondés, questionnaient ce sujet-là, disent avoir reçu, au cours des derniers mois, un diagnostic de TDAH.
Déficit de l'attention, notamment.
Exactement. Donc ça, c'est énorme.
C'est l'augmentation qui est énorme. C'est 23 maintenant, mais c'était 13 il y a 5 ans.
6 ans à peine. C'est ce qui était le plus préoccupant. Mais en même temps, il faut savoir que ces chiffres-là, c'est via un questionnaire qu'on les obtient. Il y a d'ailleurs certains médecins qui étaient dans la salle ce matin et qui doutent de la fiabilité de certaines de ces statistiques-là, qui disent que, oui, ce sont les jeunes qui disent avoir reçu un diagnostic, mais un diagnostic de quelle manière, Bernard? Est-ce que ce sont des jeunes qui se sont fait dire par un professeur, par exemple, « Ah, toi, t'as certainement un trouble de l'attention », des choses comme ça, ou si ce sont vraiment des médecins qui ont diagnostiqué de manière professionnelle ces troubles-là? Donc, c'est pour ça qu'il faut en prendre un laisser, et ça ne correspondrait pas, le chiffre de 23 % ne correspondrait pas, semble-t-il, à ce que les médecins, eux, vivent en cabinet pour la même tranche d'âge.
Ce serait moins élevé.
Exactement, ce serait moins élevé statistiquement chez les médecins, selon ce que les médecins racontent. Mais encore là, il y a quand même une forte hausse. Et c'est pas le seul endroit où on voit qu'il y aurait certains problèmes là. Au niveau, par exemple, des violences psychologiques, physiques ou sexuelles dans les rapports amoureux, dans les relations amoureuses, là aussi, il y a une hausse et c'est quand même assez préoccupant.
Là, on parle de violences verbales.
Ça peut, parce que c'est au niveau psychologique, ça peut être au niveau physique, donc de la violence physique ou encore de la violence sexuelle lorsqu'il y a relations amoureuses. Des jeunes de niveau secondaire. Eh là-dessus, je vais immédiatement te laisser entendre Michael Berthelot. Lui, c'est le grand responsable de l'étude et il dit oui, il y a certains éléments qui sont positifs, mais il y a quand même beaucoup de choses préoccupantes là-dedans.
C'est pas très encourageant. Moi, je parlerais de portraits mitigés. Ça va mieux sur certains aspects, ça va moins bien sur d'autres aspects. C'est pas très encourageant dans le sens qu'on ne perçoit pas de manière générale une amélioration très nette depuis 2010-2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la santé de nos jeunes, pour la détresse psychologique, pour les troubles anxieux, tout ce qui concerne la consommation de médicaments prescrits. On observe effectivement que ça va moins bien. Et encore là, c'est une tendance qu'on observe un peu partout en Amérique du Nord et même en Europe. Les jeunes vont moins bien au niveau de leur santé mentale. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus.
Et donc, Bernard, on a parlé beaucoup de la santé mentale, mais aussi au niveau des habitudes alimentaires, où c'est quand même assez préoccupant. Ça va pas très bien, là, non plus. Diminution marquée de la consommation chez les jeunes secondaires de produits laitiers, de fruits, de légumes. Hausse de la consommation de malbouffe. Il y a également un jeune sur 5 qui, lors du questionnaire, a répondu avoir un surplus de poids. Et ce que l'on dit aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui vont à l'école secondaire chaque jour, pas une fois de temps en temps, mais chaque jour avec le ventre vide, sans avoir mangé un bon déjeuner avant de quitter la maison.
OK, y a-t-il une bonne nouvelle là-dedans, Philippe?
Je vais terminer avec ça. Tu sais comment je suis positif, là. Ben, je ne veux pas te laisser là-dessus.
S'il te plaît, parce que là, Christophe Colomb, c'est déprimant, maudit.
Absolument. Je te laisse sur une bonne nouvelle. À peu près la seule bonne grosse nouvelle, c'est que les jeunes secondaires, Bernard, consomment de moins en moins de tabac, de drogue, d'alcool. Okay. Et ça, c'est une tendance qui est observée au Québec depuis une bonne vingtaine d'années. C'est une tendance même nord-américaine. Et si on voit un peu plus loin, même en Europe, c'est un peu comme ça. Donc, moins de consommation d'alcool, moins de consommation de drogue. Et même au niveau du cannabis, vous savez, on en parle beaucoup là, avec la légalisation ici au Québec. Sachez que au niveau du cannabis, la consommation régulière de cannabis est passée de 25 % il y a 6 ans. On est rendu à 18 %. Bon. Donc, au moins là, il y a une diminution. C'était ma bonne nouvelle.
Philippe Bonneville, merci.
Merci.
On va aller rejoindre Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous surpris?
Non.
OK.
Non, parce que les chiffres sont cohérents avec ce que l'on voit dans les écoles, ce qu'on voit dans les bureaux cliniques de psychothérapeutes, de psychologues. On voit qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus en difficulté. Le danger dans des situations pareilles, ce serait d'essayer de cibler un responsable de la condition de santé des jeunes. Je pense que c'est quelque chose de global, ce qui fait que ça paraît peut-être éventuellement plus difficile de trouver des solutions structurantes pour les aider, mais en même temps, c'est de comprendre aussi que nous pouvons tous contribuer en fait à améliorer la santé des jeunes, et chacun, à l'endroit où on est, qu'on soit enseignant, qu'on soit professionnel de la santé, qu'on soit parent, qu'on soit grand-parent, qu'on soit coach, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions pour les aider.
OK, mais encore, Joël Monzé, d'abord, moi, je vais vous dire, ce qui me console, on va dire, là, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est ce que je comprends, c'est qu'on observe le même phénomène dans l'ensemble des sociétés occidentalisées. C'est exact,
oui.
Ça?
Oui. En fait, on voit que depuis 20 à 25 ans, la société devient de plus en plus complexe. Donc, tous les problèmes, que ce soit, quel que soit le niveau où on doit le gérer, qu'on soit ministre, qu'on soit directeur d'école, qu'on soit parent, qu'on soit gestionnaire d'entreprise, notre société est de plus en plus complexe. Et plus on la virtualise, et plus, malgré la facilité technologique qu'on va avoir, elle va devenir de plus en plus complexe parce qu'on est de plus en plus dans le nuage. Et c'est cette complexité-là qui fait en sorte que ça demande de plus en plus de ressources pour être capable de s'adapter, et c'est de plus en plus difficile de s'adapter. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que finalement l'adolescence a commencé à 10 ans et ça se terminait à 25 ans. Pourquoi? Parce que ça prend tout ce temps-là pour que le cerveau soit suffisamment mature que pour offrir les ressources nécessaires qu'on va qualifier d'adultes.
Mais en même temps, là, je vais vous dire franchement, Joël Monzé, là, on sait qu'on manque de ressources, on n'arrête pas de le dire, notamment dans les écoles, pour aider justement les enfants qui vivent des difficultés, que ce soit des difficultés au niveau du déficit d'attention, au niveau du comportement, au niveau, on parle d'une augmentation du phénomène de l'autisme. Bon, et là, les gens qui nous écoutent, qui payent déjà beaucoup, beaucoup de taxes et d'impôts, vont se dire, ben coudonc, tous ces moyens que l'on met à la disposition des enfants qui vivent des difficultés au niveau de la santé mentale, au niveau du déficit d'attention, si ce n'est pas assez avec tout ce qu'on investit présentement, c'est quoi la solution? Parce qu'à un moment donné, la capacité d'investir des ressources, des nouvelles ressources, est comme presque atteinte, là. On peut déplacer de l'argent de certains endroits pour l'investir davantage auprès des adolescents, des enfants. Mais à un moment donné, notre capacité d'engager plus de ressources pour les aider est sur le point, à mon avis, d'être atteinte, là.
Oui, et je crois qu'on a un des tissus sociaux les plus intéressants d'un point de vue de toutes les sociétés, occidentales. Donc, c'est certain que oui, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Si je prends, par exemple, les chiffres qu'on avait en 2011 pour la consommation d'antidépresseurs, on parlait déjà de 400 millions de dollars. On sait qu'il y a plus de deux fois plus de gens sous antidépresseurs aujourd'hui que ce qu'il y avait en 2011.
Okay.
Autrement dit, ça veut dire près d'un milliard de dollars qui est mis en antidépresseurs. Alors, la question à se poser, ce milliard-là que nous payons collectivement à travers nos impôts et nos taxes et nos assurances collectives, privées ou, avec l'assurance médicaments du Québec, d'accord? Est-ce que ce milliard-là, il est bien dépensé? Et c'est ça, on a eu une réflexe, c'est certain que l'assurance médicaments nous a donné probablement une accessibilité aux médicaments qui a sauvé ou qui a protégé beaucoup de personnes, mais probablement qu'on est allé beaucoup trop loin dans l'attente que le médicament allait solutionner la problématique. Et il y a beaucoup de gens qui reçoivent un médicament sans nécessairement qu'on réponde à leurs besoins. Pourquoi? Parce que le besoin est plus complexe. Donc il faut revenir à une prévention, et je crois que cette prévention-là, elle va se faire dans les familles en modifiant notre manière de fonctionner. Là, dans les écoles, on a mis énormément de poids et de responsabilité sur les enseignants en ciblant des interventions sur 2, 3, 4 % d'intervention et en oubliant complètement que la plupart des problèmes, on va les résoudre par un meilleur lien, une meilleure écoute, des classes plus petites, une manière différente de faire la discipline parce que finalement, nos ados, ils vont se confronter continuellement. Alors, il y en a qui vont bousculer plus le système, il y en a qui vont s'effondrer là-dedans. Donc, il faut réviser notre manière d'entretenir les relations les uns par rapport aux autres. Et c'est là que les choses vont changer.
Mais ces chiffres-là, là, a priori, ça a l'air d'un échec compte tenu de l'augmentation là, des chiffres, là, là, et santé mentale. Est-ce que c'est un échec ou est-ce qu'il faut se dire, imaginez-vous toutes les ressources que l'on met et on obtient ces augmentations-là. Si on ne mettait pas ces ressources-là, ce serait encore beaucoup, beaucoup plus criant et beaucoup plus grave ce qu'on vivrait. Comme, trouvez-moi la bonne nouvelle ou les éléments encourageants là-dedans, parce que franchement, c'est déprimant en maudit, cela, là.
Oui, et en même temps, il y a une prise de conscience peut-être aussi dans le milieu médical. Moi, je me souviens qu'en 2007, je faisais une conférence devant 300 médecins et j'essayais de les aider à comprendre la différence entre les symptômes du TDAH et les symptômes de l'anxiété. Et pendant la conférence que je donnais, il y a un médecin qui est connu, s'est levé et il a dit « Non, c'est les Français qui sont anxieux. Nous, au Québec, ils ont un déficit génétique qui font en sorte qu'ils sont TDAH. » Donc, si nous, aujourd'hui, on commence à mieux reconnaître un certain nombre de symptômes, mieux identifier les besoins, peut-être qu'on va pouvoir arriver à mieux gérer les choses. Mais on a trop souvent que le problème, c'est comme si on voyait l'enfant qui est dans un bocal tout seul, qui est porteur d'une maladie d'origine génétique et qu'on n'a pas grand-chose à pouvoir faire, sauf que de lui proposer un médicament. Non, collectivement, nous pouvons faire des choses. Mais il y a des choix de société à faire.
Mais c'est quoi,
quand on voit ce que la France vit.
C'est quoi qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire? Donnez-moi un ou deux éléments là, de solutions, parce que là, le problème, là, il est sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on doit faire de différent, là? Donnez-moi un exemple très concret, là.
L'élément sur lequel on peut jouer le plus possible, c'est réduire le temps d'écran. Rien que déjà ça, ça va faire une grosse différence. Tantôt, vous parliez de la violence qui est faite à l'intérieur des relations des jeunes adolescents entre eux au niveau relations amoureuses. S'ils regardent continuellement des vidéos 3X, le rapport homme-femme, c'est un rapport de dominant-dominé. Comment voulez-vous, après, que le jeune comprenne les limites où elles sont? Et c'est là qu'on va avoir une transgression, parce que les références sont des références de violence. La même chose pour les jeux vidéo, la même chose pour le chatting. Si les jeunes sont tout le temps en train de chatter sur leur téléphone cellulaire ou leur tablette, ça met un degré de pression, de performance, de décharge et autres. Donc déjà là, écoutez, Boris Cyrulnik disait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un grand psychiatre européen, il faut interdire les écrans avant 6 ans, à part la télévision si on est avec papa et maman. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent la toxicité des écrans dans des fonctions de loisirs. Avant, on pensait justement que c'était un loisir, mais on voit qu'il y a tellement de jeunes qui sont pris par ça que ça les amène de plus en plus à être en difficulté. Ça amène énormément de stress, énormément de réactivité. Pourquoi? Parce qu'on y a comme une dépendance à être sur le jeu vidéo ou sur le chat. Et quand on n'est plus en train de jouer ou de chatter, le degré de tension intérieure est tel qu'à ce moment-là, les jeunes se désorganisent.
Mais donc, Joël Monzé, avez-vous des enfants, vous?
Oui, j'en ai 3.
Vous savez, à ce moment-là, la bataille qu'il faut mener pour les décoller de leurs écrans?
Oui.
Moi aussi,
oui,
j'en ai 3.
Au moment où on enlève l'écran, il y a un état de manque parce que le cerveau demande énormément de dopamine.
Et ils sont, c'est ça?
Et on a trois jours de sevrage. Et c'est ça qu'on doit être courageux en tant que parent là-dedans. On doit savoir que oui, ça a un impact qui n'est pas idéal. Donc le tout, c'est de réduire ou voire éventuellement supprimer un certain nombre de choses qui sont toxiques. La même chose au niveau de la nourriture.
C'est carrément, vous parlez de toxicité en termes de temps écran, là. C'est comme une espèce de mauvaise dépendance, une mauvaise dope, là. C'est ça que vous nous dites, là.
Oui, exactement. Au même titre que dans les années 70, on pensait que boire et conduire, c'était correct. On pouvait boire, être sous, conduire et tuer quelqu'un, c'était correct. C'était même pas une infraction au code de la route. Aujourd'hui, c'est criminel parce qu'on a vu le dégât que ça faisait. La même chose pour le tabac. Quand je suis arrivé au Québec il y a 25 ans, on vendait des cigarettes dans les pharmacies. Imaginez mon choc culturel. D'accord? Aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer qu'il y avait des cigarettes qu'on vendait dans les pharmacies parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré la toxicité de la cigarette et on pousse, tantôt vous le disiez, que les jeunes qui fument le pot, mais on voit une diminution. Donc peut-être que tous les messages que l'on voit pour l'instant avec la légalisation, les jeunes, ils entendent un message comme quoi « Oh, ça peut être dangereux, ça, le pot. »
OK, mais là, vous êtes quasiment, si je vous pousse là, à l'ultime aboutissement de votre logique, là, il va falloir, d'ici quelques années, légiférer pour encadrer le temps passé devant les écrans. Au-delà, il va falloir se donner des lois pour dire les enfants de tel à tel âge ne doivent pas dépasser plus que tel nombre de minutes ou nombre d'heures devant leur écran. Et si on fait pas ça, la DPJ va partir après nous autres comme parents, genre.
Mais je ne sais pas si la DPJ va pouvoir faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Je crois que la solution n'est pas toujours à légiférer, même si, par exemple, en France, ils ont passé une loi cet été qui interdisait l'usage des téléphones dans les écoles, ce qui fait qu'à ce moment-là, ça donne un outil très utile pour les enseignants de pouvoir éventuellement confisquer un téléphone quand le jeune se retrouve en fait en casse. Ici, si vous vous promenez à l'université ou même au secondaire, regardez le nombre de jeunes qui sont avec leur téléphone en main et le professeur n'a aucun moyen d'arrêter ça.
OK, en France, donc, attendez un petit peu, là. En France, ils ont interdit le téléphone intelligent
sur, dans les écoles.
Dans les écoles primaires et secondaires?
Oui.
Jusqu'à la fin du lycée, là, donc jusqu'à la fin de 16-17
ans. Oui, donc le jeune vient peut-être avec son téléphone, doit le mettre quelque part à l'école, de manière à ne pas pouvoir l'avoir sur lui pendant la journée, pour pouvoir justement l'amener à être plus concentré sur ses affaires. Vous savez, les jeunes, quand ils échangent avec leurs amis, ils ont tellement peur de louper quelque chose. Et vous avez des applications où éventuellement le message ne serait là qu'une, deux, trois ou cinq minutes. Donc, ça crée un degré de stress énorme. Quand un jeune met une photo, par exemple, s'il n'a pas 1000 likes dans l'espace de 3 heures, il est tout malheureux là-dedans. Et c'est cette pression-là qui fait en même temps, à un moment donné, puis vous rajoutez les familles qui sont dysfonctionnelles, vous rajoutez papa et maman qui sont séparés, donc c'est pas toujours évident d'être continuellement dans deux maisons, les conflits qui existent. Et c'est l'ensemble des choses qui fait en sorte que nos jeunes sont de plus en plus mal.
OK. Écoutez, moi, je vais prendre des appels 790-9850, Drainville à commercial 985FM.ca ou encore par texto 98985. Est-ce que ces chiffres-là vous surprennent? Est-ce que vous avez essayé de votre côté certaines solutions? Vous voyez que votre jeune ne va pas bien, je ne sais pas, problème à l'école, problème d'humeur, vous avez essayé des choses, ça a peut-être fonctionné. Peut-être que vous avez réussi à réduire le temps écran. Est-ce que ça a fait une différence? On va prendre des appels après la pause. On va se donner le temps là, de réfléchir à ça ensemble. Le temps de vous remercier, Joël Monzé, dis-je bien, docteur en neurosciences et directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. C'est où ça, l'Institut du développement de l'enfant et de la famille?
En fait, je suis dans les Laurentides.
Dans les Laurentides. Très bien, merci.
Je suis professeur associé en psychiatrie à l'Université de Sherbrooke.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, on va s'arrêter. On prend les appels après la pause 790-9850. OK, on a le temps de prendre quelques appels. Charles, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je suis issu de cette génération-là. J'ai 21 ans. Mmh. Et la cyberaddiction, ça m'a apporté pas mal d'effets néfastes dans ma vie. Puis depuis le dernier mois, avec ma famille, on a totalement coupé l'électronique pendant une semaine. Puis là, ça revient à coup de 2 heures par jour, petit à petit. Puis juste une semaine après, on avait déjà vu un changement dans mon comportement.
Et quel genre de changement?
J'étais beaucoup moins irritable. J'ai eu le temps de recommencer à dessiner, ce que j'avais pas fait depuis des années. Puis pourtant, j'ai un don naturel pour ça, puis j'avais littéralement oublié. Puis plein d'autres aspects, comme je suis plus sociable. Ça m'arrivait des fois juste à regarder des jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo. Ça m'arrivait de passer des mois sans voir mes frères et sœurs alors qu'on vit dans la même maison.
Alors, la période de sevrage s'est passée comment?
La première journée, j'ai fait une crise. Je dois l'avouer, j'ai perdu le contrôle. J'ai été très émotif. J'ai brisé mon ordinateur parce que j'ai comme eu un choc qui a fait « OK, c'est littéralement en train de ruiner ma vie. » Puis j'ai juste balancé contre le mur, il a éclaté en 1000 morceaux. Puis après ça, ben, il me restait juste mon téléphone avec lequel j'ai pas trop de problèmes parce que mes parents nous ont interdit d'avoir des téléphones avant 17 ans. Donc ça, j'en ai pas nécessairement besoin. Je suis capable de vivre sans. Mais c'est plus avec l'ordinateur que j'avais un problème.
OK. Puis ça a pris, mettons, combien de jours avant que vous ayez retrouvé une espèce d'équilibre? Là,
juste une semaine après, mes parents m'ont dit on a vu une différence. Puis moi-même, j'aurais dit merci parce que j'en avais besoin.
Oui, syncope, je vais vous dire, il faudrait que vous parliez au mien. Là, parce que. Pfiouf. Mais ça a-tu pris. Le premier jour, vous dites, j'ai fait une crise, là, je pétais tout. À partir de quand est-ce que vous avez, mettons, un peu de contrôle sur vos émotions, là?
Quelques heures après, ça a duré. Il a fallu que je sorte mes émotions, mais après ça, déjà dans la soirée, je m'étais calmé. Puis ça, c'est là que j'ai commencé à réécouter la radio. Écouter votre station en particulier, parce que j'aime bien la radio parler puis les débats. Puis ben, juste ça, ça m'a calmé. Puis
OK.
Ça, comme ça, là.
Très bien, Charles. Ben, je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci pour l'appel. Écoute, ça me fait penser à quelqu'un qui... C'est comme quelqu'un qui me décrirait son... sa lutte pour se sortir de sa dépendance au tabac. C'est genre les deux, trois premières journées, si t'es capable de passer au travers, après ça, mettons que tu augmentes tes chances de beaucoup de réussir, mais c'est comme les deux, trois premières journées, là, t'es vraiment ses nerfs. J'avais l'impression d'entendre un fumeur qui essayait de s'en sortir. Claude, bonjour!
Bonjour, M. Drainville, ça va bien?
Ah oui, on vous écoute.
Good. Moi, mon fils, mon plus vieux, j'ai deux garçons, OK? Il a été déclaré TDAH avec tous les problèmes inimaginables par l'école.
Oui.
Mon fils, c'est un enfant qui est hyper intelligent, comme tous les enfants de tous les parents. Tellement qu'il se rongeait les ongles, je pourrais dire quasiment jusqu'au coude. Il dormait pas les nuits. Il était hyper anxieux, hyper stressé. Vers l'âge de 13 ans, on a accepté, moi et ma conjointe, de carrément de l'âge débarquer de l'école. À partir de là, il a embarqué sur l'ordinateur. Il a fait des cours d'école par ordinateur. Aujourd'hui, il y a eu des diplômes par Internet. C'est tout aussi bon que l'école. Et je pense que le problème au Québec, c'est pas nécessairement les enfants. C'est les professeurs que dès qu'ils voient un enfant turbulent, ah, il était DAH, on va donner des petites pilules pour qu'il va se calmer. Fait que les profs, ils devraient peut-être, avant de jouer au docteur, ils devraient peut-être faire la job de prof. J'ai mon plus jeune. Lui, c'est un sportif. Il bouge, il court partout, il fait tous les sports inimaginables. Et s'il arrive en retard, par exemple, à l'école, on parle de une minute.
Mm.
On le retourne à la maison pour la journée. J'ai mon plus vieux avec moi ici. Puis il pourrait t'expliquer un peu son parcours, là. Puis oui. Tu verrais que c'est pas nécessairement les enfants, je pense, le problème au Québec.
Okay.
Je pense que les profs sont tellement débordés, brûlés, tout ça. Et on a trouvé la fameuse piqûre, la pilule miracle.
Le Ritalin.
On va le donner.
Oui.
On va le. Dans le fond, ça va remplacer le pot, là. On va les calmer un petit peu. Je vais avoir la peine dans ma classe.
Très bien. Merci, Claude, pour l'appel. Ouais. Mais ça, c'est un point de vue. C'est un point de vue, là, de dire que des fois, les profs sont tellement débordés qu'ils mettent de la pression sur les parents pour que l'enfant soit médicamenté. C'est pas la première fois que j'entends ça. Là, j'entends beaucoup de points de vue là, qui me parviennent par courriel, par texto. Par exemple, il y a Étienne qui me dit « Pour les jeunes, là, ça commence par une heure d'exercice physique par jour. » Ça, je l'entends aussi souvent. À un moment donné, là, on a perdu l'activité physique comme valeur importante de notre jeunesse. Là. Puis à un moment donné, ça finit aussi par faire une différence. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit il y a une mode présentement dans les écoles, désir de performance, etc., etc. Voilà, médicamentation trop importante. Me dit-on du côté des textos. Moi, mes filles utilisent les iPads comme elles le veulent. Aucune restriction. Sont premières de classe. Je pense qu'on essaye de faire peur aux gens. Alors, il y a ça. Un autre qui me dit on joue dehors. Voilà. Moi, une heure de lecture avant le dodo, je ferme Internet à 9h30 le soir pour mes trois enfants, 13, 17 et 20. Donc, une heure de lecture avant le dodo, on éteint les appareils électroniques. Les parents ont aussi scotché à leur écran, sont aussi scotchés à leur écran, donc ils donnent l'exemple à leurs enfants. Ben oui, ça, c'est un fait. Ah, tiens, au collège Stanislas de Montréal, c'est un lycée français, ça, le cellulaire est interdit dans les classes. Ouais, ça, je dois dire, j'ai trouvé ça intéressant, là, la suggestion de Joël Monzé là, que vous avez entendu en entrevue. Mais la bataille qu'il faudrait mener avec nos enfants pour les décoller, juste de négocier le temps d'écran. Comment ça marche, là. Je ne sais pas si vous obtenez des bons résultats, là. Mais c'est vraiment une bataille de tous les instants que l'on doit mener. Mais je pense qu'il y a effectivement un lien entre la surutilisation des appareils électroniques, en particulier des écrans, et les statistiques qui ont été confirmées aujourd'hui. On s'arrête quelques secondes.